Avoir raison avec Ayn Rand par Xavier Delaporte. Aujourd'hui, la gloire enfin. Avoir raison avec Ayn Rand, deuxième numéro de cette semaine consacrée à cette écrivaine américaine à très grand succès, penseuse, je ne sais pas, de l'objectivisme, figure du mouvement libertarien américain avec Alain Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes éditeur aux belles lettres, vous êtes l'auteur de nombreux livres, en particulier sur la question de l'individualisme, mais pas seulement. Et vous êtes l'auteur d'une biographie de Ayn Rand qui est intitulée « Ayn Rand ou la passion de l'égoïsme rationnel » et qui est paru il y a quelques années aux belles lettres. Alors, pour faire un tout petit, une petite mise au point sur là où on en est avec vous, Ayn Rand est à New York en ce mois de décembre 1943 et elle va commencer sa troisième vie, celle qui lui vaudra sa notoriété et qui fait qu'on s'intéresse vraiment à elle aujourd'hui. Et c'est notamment avec la publication de son premier grand roman, c'est pas le premier, qui s'appelle Fountainhead en anglais, mais qui a été traduit en français sous le titre La source vive. Est-ce que vous pouvez nous donner, Alain Laurent, une idée de ce qu'est ce texte assez étonnant et de sa réussite, de l'influence qu'il a, alors, pas complètement immédiatement, mais ça en y viendra, de sa réception, disons, immédiate. Alors, La source vive, qu'est-ce que c'est ?
Alors, La source vive, littéralement, c'est la puissance créatrice de l'esprit individuel. Voilà. Ce qui induit donc un refus de se conformer à ce qui est établi, à ce qui est collectif, etc. Et ça se traduit chez elle par l'histoire d'un jeune architecte non conformisme et qui essaie donc d'introduire un nouveau concept de l'architecture, de la construction, y compris sur le plan esthétique, qui est en but à ceux qui sont déjà en place, qui parfois tente de lui dérober ses idées, ses innovations. Et ce jeune architecte donc s'appelle Howard Roark. Et c'est quelqu'un qui, plutôt que renoncer à ses idées, préfère souvent vivre pauvre. Il passe plusieurs années à casser des pierres dans une carrière parce qu'il a refusé tout compromis, toute compromission avec ceux même qui voulaient l'acheter au détriment, en effet, de la pureté de ses convictions. Et là-dedans, alors il y a évidemment le triangle amoureux dont nous parlions hier, et il y a aussi cette lutte contre l'establishment plus ou moins corrompu, mais moins corrompu du point de vue des rentes par l'argent que par l'idéologie ou par la facilité, par la lâcheté devant les efforts qu'il faudrait faire pour, en effet, introduire de nouvelles conceptions dans la construction, dans l'architecture, etc. Et ça s'achève sur un morceau de bravoure qui a contribué à la célébrité d'Ayn Rand. À un moment donné, donc, Howard Roark préfère dynamiter tout un ensemble de logements sociaux, parce que c'est quelqu'un, en effet, qui voulait y contribuer, mais parce que on les avait construits en dépit des instructions qu'il avait données. Plutôt que de voir le résultat de sa créativité défigurée, il préfère en fait dire, donc il est traduit en justice, et là, il se livre à une sorte de plaidoyer pro domo devant la cour en disant, mais rien ne doit surpasser les droits souverains du créateur sur son œuvre, et je n'y renoncerai jamais, quel que soit, en effet, ce qu'on pourrait me faire en échange de l'abandon de la libre disposition de moi et de mon esprit.
Et d'ailleurs, la fin de La source vive est une sorte de happy end, puisque la société va le condamner, oui, à reconstruire, mais selon ses principes,
oui, oui, oui,
ces logements-là.
Donc, il obtient gain de cause d'une certaine façon.
Alors, Alain Laurent, pourquoi l'architecture ? Parce que c'est quand même très étrange. Ouais. C'est vraiment le thème central. Il y a des pages entières très détaillées, d'ailleurs, sur ces questions de rivalité de courants architecturaux à New York à cette époque-là. Pourquoi Ayn Rand va chercher la question de l'architecture ?
Mais savez-vous qu'elle-même allait s'instruire auprès du plus célèbre architecte américain, Frank Lloyd Wright, n'est-ce pas ? Et elle a conservé des liens d'amitié très étroits avec lui. C'est parce que chez Ayn Rand, il y a une autre dimension extrêmement intéressante, c'est ce caractère prométhéen. Donc la puissance créatrice de l'esprit se traduit selon elle par l'innovation technique. C'est quelqu'un donc qui est, c'est pour ça que c'est pas du tout une conservatrice. Pour elle, le progrès humain doit continuer, et en particulier grâce à la technologie, aux métiers techniques. Par exemple, alors, l'architecte est quelqu'un qui consomme et qui matérialise en effet cette puissance créatrice. Et plus tard, on verra que dans son autre grand roman, le personnage central est un ingénieur. Mmh. Donc ce ne sont pas des banquiers, ce ne sont pas des businessmen, etc. C'est en effet cette puissance prométhéenne. L'esprit humain parviendra en effet à maîtriser la nature, à s'épanouir. Et donc c'est là qu'il y a une sorte de vision extrêmement optimiste de la vie chez Ayn Rand, en particulier grâce d'une part à la liberté individuelle et d'autre part à cette puissance de la technique.
Alors quelle est la réception, Alain Laurent, de
Alors la réception
de ce texte
au départ est quasi nulle. Et alors il se passe un phénomène tout à fait étonnant qu'on verrait bien mieux se produire de nos jours. Elle doit son succès ultérieur au premier des réseaux sociaux qui s'appelle le bouche à oreille. En effet, il n'y avait évidemment pas rien d'autre. Et alors, malgré tout, ce qui montre tout de même qu'il y avait une sorte d'attente latente dans une partie du public américain, peu à peu, la réputation de l'ouvrage se fait, et à la grande surprise de l'éditeur, ça commence à se vendre par milliers d'exemplaires, puis dizaines de milliers, et ça finit au bout d'un an seulement par un retentissant succès. Il faut savoir qu'actuellement, il y a eu aux États-Unis pas loin d'une dizaine de millions d'exemplaires de The Fountainhead qui ont été achetés et élus.
Et qui continuent, hein. c'est des dizaines et des centaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus chaque année.
C'est une sorte de moteur permanent. Il est un peu moins vendu que l'autre dont on parlera tout à l'heure, mais malgré tout, le succès. Alors, il est servi aussi par le fait que ce succès, dû uniquement aux bouches à oreilles, ça attire à nouveau l'attention d'Hollywood sur elle, et pas n'importe qui, de King Vidor, qui propose d'adapter The Fountainhead au cinéma.
Alors, non, mais on va parler de King Vidor et l'adaptation au cinéma, parce que Le Rebelle, le film que ça a donné, est resté un grand film.
C'est un film d'arrêt d'essai.
Voilà, c'est un grand film du cinéma américain. Mais on, juste avant ça, il y a la critique qui a été faite, bien des critiques ont été faites à La Source Vive, des critiques d'ordre littéraire, on a reproché l'aspect caricatural des personnages, on a reproché cette espèce de morceau de bravoure dont vous parliez, qui est la fin, le long plaidoyer de Howard Roark, qui est quand même d'un point de vue littéraire un peu fatigant, mais qui est intéressant, hein, mais qui est un peu fatigant. Et alors on a reproché aussi au lecteur, disons, de lire ce texte aussi pour des raisons sexuelles, parce qu'il y a quelques scènes qui sont quand même très très fortes, très fortes pour l'époque.
Hein. Ah oui, c'est très hard par là. Hein.
Voilà, et qui ont rapport avec ce qu'on disait hier sur le triangle amoureux, la complexité, etc. C'est un livre qui laisse une place très étrange aux femmes et à la sexualité.
Oui, alors c'est encore une fois extrêmement paradoxal et très complexe chez Ayn Rand. D'un côté, il y a l'image virile du héros qui est en principe masculin. Mmh. Mais en même temps, la femme est émancipée, mais participe à une sorte de culte du héros masculin auquel elle se soumet. Il y a, alors, lorsqu'on veut faire du raffinement, on peut parfois presque trouver un côté quelque peu de presque masochiste dans l'attitude de la femme par rapport au héros. Mais ce masochisme est parfois également présent chez le héros masculin qui préfère attendre, renoncer avant qu'il y ait justement une rencontre sexuelle. Ce sont des gens qui doivent savoir maîtriser cette attente ou le désir qu'ils ont l'un de l'autre. Et très curieusement, il n'y a jamais de jalousie. Mm-hmm. Donc, Roald Roark, en effet, accepte tout à fait que Dominic Franconne, l'héroïne, en effet, aille convoler avec quelqu'un d'autre et il reste avec lui pendant des années et ça met du temps à se réinstaller entre eux. Donc, c'est quelque chose qui peut être déroutant, y compris pour le public américain conservateur ou très conformiste de l'époque. Là, il en avance sur son temps. Mais en même temps, de mon point de vue, ça participe heureusement à la complexité à la fois du personnage personnage et puis de son œuvre. C'est pas tout d'une pièce, c'est quelque chose donc dans lequel il faut s'assimiler progressivement, être prêt à être surpris et dérouté, la preuve. Alors, ce qui se passe dans le film, c'est que tout cela, tout de même, est simplifié à l'extrême.
Alors, le film, donc, c'est le rebelle. King Vidor le réalise. Le personnage principal est incarné par Gary Cooper, quand même. Les actrices hollywoodiennes de l'époque se battent.
Tout le monde se dispute.
Pour avoir le rôle de Dominique Franconne. Et le film, c'est intéressant parce que ça dit aussi quelque chose du personnage. C'est-à-dire qu'elle est appelée par Hollywood pour écrire le scénario, donc elle retourne à Hollywood avec son pauvre mari, Frank O'Connor, qui la suit partout. Elle écrit le scénario, elle livre un plaidoyer final de 8 pages, dont elle interdit qu'il soit coupé aux grands dents du pauvre Gary Cooper qui n'arrive pas à le retenir. Il y a un documentaire qui raconte tout ça. Le film fonctionne bien, participe à la diffusion de la pensée romanesque, mais disons déjà assez intellectuelle de Ayn Rand.
Alors, en partie seulement, il a ce qu'on pourrait appeler un succès d'estime, mais sans plus. C'est au fil des décennies qu'il va acquérir sa réputation, hein, jusqu'à être considéré comme une œuvre d'art et d'essai, quelque chose de tout à fait considérable sur le plan esthétique. Alors, un petit mot tout de même sur le plaidoyer de Howard Hawks. En fait, il n'est pas si long que cela. C'est rien à côté de ce qu'on va voir par la suite. Voilà. Parce que là, ça dure quelques minutes tout de même. C'est quelques pages, 5-6 pages dans mon souvenir. Mais elle y tenait et c'est elle qui a travaillé le scénario.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, mais déjà c'était un peu le cas avant, le travail d'Ayn Rand va vraiment avoir deux pans, c'est-à-dire elle continue son travail romanesque avec Atlas Shrugged, qui a été traduit en français sous le titre La Grève, ça on va y venir, et puis aussi tout un pan théorique. Un pan presque philosophique. Alors commençons par ce deuxième roman, Atlas Shrugged.
Alors, ce qui se passe, c'est que, vu le succès public de la Source Vive, des proches, des amis, mais des gens du public lui demandent tout de même d'approfondir cette thématique individualiste qui est si puissante dans le roman, c'est sans doute le plus grand roman individualiste qui ait jamais été publié. Et Ayn Rand entreprend deux choses. D'une part, elle a l'idée d'un nouveau roman sur lequel elle va travailler pendant plus d'une décennie, et en même temps, elle commence à se rendre compte que il faudra peut-être faire un tout petit flashback sur ce plan immédiatement, que ce thème de l'individualisme n'est peut-être pas suffisant et qu'il demande à être plus solidement fondé et argumenté. Alors ce qu'il faut savoir, je fais mon petit flashback, ce qu'il faut savoir c'est que en 1941, elle a publié un petit texte qui s'appelle « The Manifesto of Individualism ».
Le manifeste de l'individualisme.
Le manifeste de l'individualisme, et ça se termine par « Individualistes de tous les pays, unissez-vous ». Donc, ça n'a pas une grande diffusion, mais elle s'aperçoit en effet de ce manque de fondement. Quelques années plus tard, elle reprend le même thème et elle ne parvient pas à aller jusqu'au bout d'un livre, et ça se terminera par un petit résumé qui est publié dans un numéro du Reader's Digest en 1945. Mais en tout cas, entre 41 et 45, sa grande thématique, c'est l'individualisme à refonder moralement et presque philosophiquement. C'est ce qu'elle veut faire dans le nouveau roman. Mais alors, en plus, elle s'aperçoit que cet approfondissement nécessaire, il lui faut des fondements objectifs. Elle va les chercher chez une vieille connaissance qui est Aristote. Il y a toujours eu cette bipolarité philosophique chez Ayn Rand. D'une part, elle se recommande d'Aristote. En même temps, il y a tout ce côté nietzschéen. On peut dire qu'elle essaie de nietzschéiser Aristote, c'est-à-dire que la raison devient l'arme de la volonté de puissance, au contraire de ce que l'on trouve chez Nietzsche. Alors tout ça demande un grand approfondissement, et le nouveau roman sur lequel elle travaille, et qui de ce point de vue a un côté beaucoup plus roman à thèse que le précédent, qui était purement romanesque, c'est quelque chose qu'elle va élaborée pendant... Donc elle en a l'idée dès 1943-44, il va être publié en 57, donc vous voyez la longueur de la gestation.
13 ans.
Cette fois-ci, et c'est une sorte de monument qu'on ne peut comparer à rien d'autre, sans doute, dans l'histoire des idées. Je dis bien des idées, parce que c'est bien un roman. Et ça, c'était le coup de génie d'Ayn Rand. C'est pourquoi elle est infiniment plus connue que des gens qui auraient des convictions semblables, parce qu'elle a choisi la voie de la fiction pour illustrer ses idées. Ce qui n'empêche pas qu'au cœur de la fiction, il y a des développements purement intellectuels tout à fait prodigieux, extrêmement longs parfois.
Alors, on y reviendra dans « Savoir raison avec » à l'œuvre strictement romanesque d'Ayn Rand, mais pour le dire très vite, Atlas Shrugged, donc traduit en français sous le titre « La grève », qui était d'ailleurs le titre de travail.
C'est le titre de travail.
Ça raconte les personnages, disons les personnes les plus créatives, les plus puissantes, les plus ambitieuses et les plus géniales d'un pays qui ressemble fort aux États-Unis, qui décident de faire grève, de faire sécession, de quitter le pays parce qu'ils sont emprunts à trop d'opposition de la part d'un État qui est très fort et qui les empêche.
Et très intrusif.
Très intrusif. Et donc, ils font sécession et ils vont constituer une sorte de communauté utopique dans le désert du Colorado où là, ils vont pouvoir vivre leur capitalisme individualiste de manière totalement libre. Et ça met en faillite le pays. Ce texte termine par le personnage central qui est l'organisateur de toute cette grève, qui s'appelle John Galt, qui prend possession de la radio et qui fait un énorme discours qui court sur 200 pages dans le,
voilà.
dans le livre.
Où un il livre explique, dans le livre.
Voilà, oui. Un livre dans le livre où il explique la théorie d'Ayn Rand. Bon, ça c'est la part du roman. Et alors, ce roman, lui, il a un succès de bouche à oreille, comme le précédent, plus que critique, mais considérable et assez vite.
Oui. Alors, il faut savoir. Alors, la grande différence et l'évolution d'Ayn Rand entre la source vive et la grève, c'est que la source vive, c'est un seul contre tous, et là, c'est seul contre tous, mais au pluriel.
C'est un collectif. C'est un petit collectif.
Ouais. Voilà. Nouveau paradoxe chez Ayn Rand. Donc, on a affaire à des personnages qui désertent peu à peu la vie publique. Ce ne sont pas simplement, d'ailleurs, comme on pourrait l'imaginer, quand on réduit trop hâtivement Ayn Rand à la défense du capitalisme, ce sont des créateurs. Plus que des créateurs, parfois entrepreneurs. Il y a, par exemple, un compositeur, il y a un philosophe, etc. Donc, des personnages qui, chacun, dans sa discipline, ont une puissance créatrice et qui est jugulée par le contexte de l'époque et cet état, cette sorte de welfare qui s'est démultiplié, qui envahit tout. Et ces gens qui sont... Alors, il y a quelqu'un qui est l'instigateur de tout ça, qui s'appelle John Galt. D'ailleurs, le roman sauf ce « Who is John Galt ?» qui est devenu vraiment l'une des phrases les plus célèbres aux États-Unis. Et lorsqu'il entreprend son discours pour expliquer quelles étaient ses motivations et qu'il va exposer sa philosophie, ça commence par « This is John Galt speaking ». Là, également, quelque chose d'extrêmement célèbre aux États-Unis.
Et donc, la réception de ce texte, parce que même, c'est quand même politiquement un texte très étonnant, parce que certes, vous le dites, c'est d'abord des créateurs, mais qui veulent l'épanouissement et la capacité d'être le plus riche possible sans avoir à s'occuper du reste de l'humanité, hein, quand même.
C'est
quand
pas
même...
forcément le plus riche. Par exemple, le compositeur ou le philosophe, non, c'est pouvoir.
C'est vrai, ils peuvent être pauvres.
Et ce sont tout de même des gens dans cette utopie. Alors, ça s'appelle Atlantis, c'est niché au fin fond du Colorado. Et là, on retrouve l'aspect prométhéen d'Ayn Rand, parce que John Galt est l'inventeur d'un moteur qui devrait révolutionner toute la production. Atlantis est protégé par des rayons, c'est tout à fait futuriste. L'un des personnages a inventé un nouveau type de métal qui va révolutionner l'industrie du chemin de fer.
Mais Alain Laurent, mais qu'est-ce qui plaît là-dedans? Pourquoi est-ce que ce roman qui va s'adosser à une œuvre qui est plus anecdotique, hein, une œuvre philosophique de refondation de l'individualisme, vous l'avez dit, pourquoi est-ce que ça va créer non seulement un petit cercle de gens autour d'Ayn Rand qui vont se réunir, de jeunes intellectuels qui vont... participer à la diffusion de l'œuvre d'Ayn Rand, et par ailleurs, parce que c'est ça quand même aussi qui se joue à cette époque-là, après la grève, c'est-à-dire que les universités américaines vont être irriguées.
Ah, elle va devenir la déesse des campus.
Ah oui, non mais c'est quand même ça qui est incroyable. À partir de comment ça s'articule?
Alors il faut revenir tout de même au titre. Atlas, c'est la révolte d'Atlas. Atlas est celui qui supporte le monde entier sur ses épaules dans cette vision d'Ayn Rand. Et Atlas, ben, ce sont les créateurs, les entrepreneurs, parfois même des gens plus modestes au fond qui doivent qui ne sont pas libres de travailler comme ils le voudraient et qui, en plus, doivent, au fond, supporter et alimenter tout le reste de l'humanité. Donc, ils sont privés de leur liberté créatrice et, en même temps, ils sont des esclaves. Mmh. Et c'est ça qui, au fond, provoque un choc profond dans le public, puisque là aussi, ça se passe de la même manière. Au début, alors, hostilité, alors que la source vive, c'était plutôt le silence, là, c'est l'hostilité, il y a même dans les milieux même,
hostilité critique, hein, et intellectuelle, ouais, très fort.
Fort. Par exemple, il y a un critique conservateur qui dit, mais c'est Big Brother qui arrive.
C'est-à-dire il fait un grand article qui s'appelle Big Sister.
Oui. Donc, elle s'est toujours battue sur deux fronts. Elle considère le conservatisme comme une sorte d'autre type de collectivisme. Très peu après, elle va s'en prendre au pape, par exemple. Cette réception est assez étonnante parce que ça contrevient à une partie de la tradition américaine. Mais en même temps, c'est en accord avec l'autre partie. Par exemple, Ayn Rand fait l'éloge dans cet ouvrage des pères fondateurs de la Constitution américaine, implicitement donc de Jefferson. Alors, ce qui plaît, c'est cette révolte contre cet État, Providence, Welfare State démultiplié, qui est en train de s'installer d'une façon doucereuse aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que même des gens extrêmement modestes sont frappés par cela, mais c'est vrai, son succès se fait surtout sentir chez les jeunes. Et alors, ce qui se passe, c'est que aussitôt après l'énorme succès de ce roman, puisqu'il y a des millions d'exemplaires qui sont vendus, c'est du jamais vu aux États-Unis. On est au début de la guerre du Vietnam. Non seulement Ayn Rand combat pour la liberté de l'avortement contre le pape, mais elle combat la guerre au Vietnam, qui lui paraît une guerre perdue d'avance et qui est stupidement altruiste et qui ne sert pas du tout les intérêts des États-Unis.
Juste une parenthèse, c'est quand même fou chez Ayn Rand, c'est-à-dire qu'elle défend pas, elle n'est pas contre la guerre du Vietnam parce que c'est une guerre colonialiste, elle est contre parce que simplement c'est une guerre altruiste.
Oui,
ce qui est quand même compliqué à comprendre parfois.
Oui, mais en tout cas, c'est un gros succès auprès des étudiants américains de l'époque, ça va être l'époque de Berkeley, etc. Et alors, ce qui se passe, c'est que rapidement, on lui demande d'approfondir les thèmes qui étaient dans la grève, et par conséquent, autour d'elle va se constituer un cercle d'intellectuels, mais surtout d'étudiants, de jeunes gens, qui vont l'aiguillonner, et c'est là que, très rapidement, alors que le mot n'apparaît nulle part avant, au début des années 60, dans For the New Intellectual, elle dit « J'ai décidé d'appeler ma philosophie l'objectivisme ».
Voilà. Alors, elle crée donc un courant philosophique qui s'appelle l'objectivisme. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce que c'est que l'objectivisme, et est-ce que c'est vraiment intéressant philosophiquement?
C'est extrêmement intéressant. Alors, il y a une base aristotélicienne avouée. Un problème étant de savoir si c'est vraiment fidèle. Enfin, je laisse ça de côté à ce que l'on trouve chez Aristote. Puisqu'elle était à la recherche d'une base fondatrice de l'individu. Elle la trouve sur deux plans. D'une part, elle va débaptiser en quelque sorte l'individualisme pour au contraire se centrer sur ce qu'elle appelle a new concept of egoism, un nouveau concept de l'égoïsme, l'égoïsme rationnel, mais celui-ci dérive de quelque chose de plus fondamental chez elle, puisqu'il fallait trouver une origine fondatrice indubitable de son point de vue. Elle la trouve dans ce constat qu'il y a une réalité indépendante de l'esprit humain qui commande tout, c'est-à-dire on ne peut pas arriver à quoi que ce soit si l'on nie la réalité. C'est donc la base de l'objectivité, une réalité objective. Et deuxièmement, cette réalité objective ne peut être découverte que par l'usage logique et plein de la raison. Donc réalité et rationalité, ce sont les deux piliers fondateur d'Ayn Rand.
Alors, on lui reprochait, et même certains des gens qui ont été autour d'elle très, très tôt, ils sont restés assez longtemps, lui reprochaient de ne pas connaître finalement grand-chose à la philosophie, de faire des emprunts comme ça un peu rapides, de ne pas beaucoup lire, et donc, au fond, que c'est un courant philosophique qui s'appuie sur des bases un peu faibles.
Oui. Alors, parmi les gens en question, il y a moi-même, d'ailleurs.
Ah bon, très bien.
Oui, parce que je considère que sur le plan... Si vous voulez, c'est sur le plan de l'histoire de la philosophie. Ce fait que c'est dévastateur, mais de façon extrêmement légère et profondément arbitraire. C'est une sorte d'entreprise de démolition tous azimuts. Et en effet, moi je fais aussi partie des gens qui, texte en main, on peut établir qu'elle n'a pas toujours lu les gens qu'elle critique, c'est souvent de seconde main. Donc c'est pas très sérieux de ce point de vue-là.
Et pourtant, c'est un succès considérable, c'est qu'elle devient un vrai personnage de la vie publique américaine. Elle passe à la télévision dans les émissions les plus respectées. Et puis elle est invitée, réinvitée chaque année où elle apparaît, cette espèce de vieille chouette avec ses grands yeux et cette sorte de plaid sur les genoux à parler.
Et puis la cape noire aussi.
La cape noire aussi.
Le signe du dollar.
Elle va faire des conférences dans toutes les grandes universités américaines, Princeton, Harvard, Stanford, West Point. Elle y retourne, etc.
Alors vous parliez des émissions, les talk shows les plus prisées aux États-Unis. Elle est l'invitée de Playboy, par exemple.
Elle fait les
premières pages et les gros titres de grands quotidiens comme le Los Angeles Times en 1962 où l'expose son credo. D'une part, je parle de la métaphysique de la réalité. Ensuite, il y a une épistémologie grâce à la raison. Après, j'institue également une éthique, l'éthique objectiviste, celle de l'égoïsme rationnel. Et puis enfin, il y a une politique, celle du gouvernement libre. C'est pas un anarchiste, hein. C'est quelqu'un qui croit en la vertu.
On y reviendra demain sur la question entre libertarianisme et anarchisme.
Un gouvernement limité. Donc tout cela prospère tant et plus, jusqu'à l'événement, alors qu'il y a des effets dévastateurs, c'est la rupture avec son jeune amant en 1968, parce que ça déstabilise tout le système.
Parce que c'est son plus ardent promoteur, c'est lui qui tient l'institut.
Oui, National Brandon, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui organise les conférences dans les universités. Mais à partir du moment où il y a rupture entre eux, alors ça se passe d'une façon totalement irrationnelle, déjà, ce qui choque un certain nombre de disciples d'Ayn Rand, et puis tout de même ça désorganise tout le réseau, et il y a au fond une sorte d'avant et d'après 1968 de ce point de vue-là.
Alors c'est ça qui est beau avec Ayn Rand, et on va devoir terminer là-dessus, Alain Laurent, c'est que elle personnage hautement paradoxal, c'est-à-dire que l'objectivisme perd de son influence à cause d'une histoire d'amour. Elle, qui avait postulé quand même que être amoureux n'était même pas une question à la limite dans la vie,
et qu'il fallait maîtriser totalement les choses,
il fallait tout maîtriser, et elle meurt d'un cancer du poumon parce qu'elle a trop fumé.
Elle fait lointain de la nicotine.
Voilà. Alors elle-même qui postulait une pleine maîtrise de son corps.
Voilà. Alors. Son testament, c'est en 1974, une conférence à West Point, auprès des cadets de l'armée américaine, puis en effet, peu à peu, disparaît des circulations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était au fond sa troisième vie, puis qu'il y a une quatrième vie posthume qui commence après son décès en 1982.
Et qui dure jusqu'à aujourd'hui.
Il prend de plus en plus d'ampleur à la stupeur générale. Alors, il y a plusieurs think tanks qui s'établissent autour de sa pensée, parfois en rivalité. Et puis, surtout, le grand rebond, c'est à partir de 2008, lorsqu'il y a la crise financière, où brusquement, les ventes de la grève passent de 80 000 par an à 500 000. C'est quelque chose de tout à fait prodigieux et sans précédent. Ça rebondit au moment du Tea Party, avec un grand malentendu. C'est que brusquement, des conservateurs s'aperçoivent qu'elle est athée. Et donc, ça continue encore aujourd'hui avec l'administration Trump.
Merci beaucoup Alain Laurent d'avoir raconté cette vie, cette trajectoire à la fois biographique et intellectuelle de Ayn Rand, puisqu'on verra dans la suite de ce Avoir raison avec, comment est-ce que précisément ça rencontre des questions politiques peut-être un peu plus contemporaines que celles dont nous avons parlé aujourd'hui. Je renvoie vers votre livre Ayn Rand ou la passion de l'égoïsme rationnel, qui est paru aux éditions des Belles Lettres. Merci beaucoup Alain Laurent.
Merci.
C'était Avoir raison avec Ayn Rand, une série de Xavier Delaporte, prise de son Claire Levasseur et Benjamin Vignal, réalisation Guillaume Baldi.